Session de théologie par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 27 août 1991.
J'espère que vous vous êtes bien reposé après les chaleurs d'hier et fait le début de la session. Nous allons continuer d'entrer dans ce que représente le mystère des tentations. Donc, à partir de l'Écriture, il y a plusieurs questions qui ont été posées déjà depuis hier, je les traiterai tout à l'heure cet après-midi. Je crois qu'il vaut mieux avancer progressivement dans ce domaine très vaste. On ne fera pas de façon exhaustive, comprenez bien. Je vous donne quelques aspects qui me semblent importants. Donc, ne vous inquiétez pas si les questions restent encore. Ça s'accumulera s'il faut faire une session en plus, du moins un cours de plus pour répondre à toutes les questions, on le fera. La grosse question qui se pose, et je comprends très bien, si hier je vous ai parlé des diverses orientations de la théologie, dont l'axe principal est toujours la théologie scientifique, telle que saint Thomas l'a donnée. Saint Thomas, dans l'histoire de la pensée de l'Église, représente un axe que, je crois, personnellement, on ne peut pas mettre entre parenthèses. Je sais que beaucoup, je dirais, la plupart des théologiens aujourd'hui auraient cette intention. Saint Thomas a existé pour le Moyen Âge. Le Moyen Âge est passé, Saint Thomas avec lui. Et nous devons faire la théologie de notre monde d'aujourd'hui. Toute une conception hegelienne de la théologie aujourd'hui qui est assez massive. Ça, il faut le reconnaître, c'est un fait. L'autre jour, en discussion avec le professeur Bourgeois, qui enseigne Hegel à Paris 1, qui est un grand ami, peut-être hegelien et thomiste, en étant ami, c'est-à-dire en cherchant la vérité. Et l'amitié va très loin, puisque il nous donne de temps en temps, quand il a le temps, des petits cours, et puis il nous invite chez lui. Pas moi seul, mais plusieurs étudiants. Et puis il y a des étudiants qui font leur thèse avec lui. Hegel et saint Thomas, puisque c'est ça qu'ils cherchent. Aristote et Hegel, comprendre un tout petit peu. Il avait fait une conférence merveilleuse ici, en partant de ce point de vue. Hegel dit « Je suis luthérien ». Et toute cette théologie est une théologie luthérienne. J'ai beaucoup aimé ça, parce que ça c'est vrai. Vouloir se servir de Hegel pour faire une théologie catholique, c'est autre chose. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu, dans l'Église, un problème terrible, le problème problème de Calvin, le problème de la réforme. On doit tout faire pour que nos frères séparés aient la grâce d'une recherche avec nous et nous la grâce de les accueillir et de les aimer. Une recherche de vérité. On lui a posé la question. C'était pas méchant, mais c'était très méchant en même temps, puisque nous étions là tous autour de lui. Est-ce que la manière dont Kuhn nous dit on ne peut plus faire une théologie de l'incarnation sans égal. Hans Kuhn, parce qu'il y en a plusieurs Kuhn. Quand on est en Suisse, on sait que les Kuhn sont nombreux. En français, il n'y en a qu'un. C'est Hans. Hans Kuhn, son gros livre, où il bataille avec Hegel et où il est en même temps très séduit. Alors on lui a posé la question. Alors, il a dit très d'une façon qui était juste. On ne peut pas aujourd'hui être un théologien sans connaître Hegel. Ce qui est très vrai. Je crois. Ça ne veut pas dire que Hegel modifie la théologie scientifique de saint Thomas. C'est deux choses différentes. Hegel développe toute une pensée qui est toute différente de celle de saint Thomas. À partir d'une conception de la foi qui est luthérienne. Et la conception de la foi luthérienne, rapidement, très rapidement, c'est de dire tout simplement qu'à cause et conséquence du péché originel, la nature humaine est corrompue. Et donc l'intelligence, comme intelligence, ne peut découvrir aucune vérité. Elle ne peut absolument pas, par elle-même, découvrir l'existence de Dieu. C'est la foi qui redonne à l'intelligence humaine sa vitalité de rechercher la vérité. Vous voyez, alors, c'est une manière très particulière d'interpréter fides querens intellectum, dont je vous parlais hier. La foi cherchant l'intelligence. Pour Hegel, la foi redonne l'intelligence. C'est pas cherchant, mais redonne l'intelligence. Parce que sans la foi, l'intelligence humaine est incapable de découvrir l'existence de Dieu. Donc, c'est la foi qui seule permet à l'intelligence humaine d'être intelligence. Au fond, la foi ressuscite l'intelligence humaine. C'est ce point de vue-là qui est propre à Luther et qui est propre à Hegel. Donc une vision très particulière. Et aujourd'hui, beaucoup de théologiens catholiques emprunte la théologie de Luther pour faire une nouvelle théologie. Il faut être attentif à ça. Il faut toujours regarder les sources. Si on veut avoir un regard de sagesse, jamais oublier ce que Peggy dit. Peggy avait du bon sens. Et Peggy le dirait encore plus aujourd'hui. Le sage, c'est celui qui remonte à la source. Ceux qui ne sont pas sages descendent le fleuve avec tout le monde. Et Peggy ajoute, les cadavres cadavres descendent plus vite le fleuve que les autres. Ça, quand on dit ça, sous le vocable de Peggy, ça prend une petite note particulière. Peggy dit, le sage remonte à la source et il est souvent seul. Et il accepte d'être seul. Très peu de personnes qui acceptent d'être seules dans la recherche de la vérité. Et c'est vrai, remonter le fleuve, remonter la source, il dit ça pour la philo, et c'est vrai pour toute sagesse. La sagesse théologique me fait remonter à la source, et la sagesse mystique me fait remonter à la source, et la sagesse philosophique. C'est vrai que des quantités de personnes, au fond, la seule chose qu'ils cherchent, c'est d'être à la mode. De faire comme tout le monde. Il n'y a plus de recherche de vérité. S'il n'y a plus de recherche de vérité, évidemment, on désire faire ce que tout le monde fait. Je demandais une fois à un jeune artiste que je connaissais bien, qui changeait tout à fait, qui faisait de l'art abstrait. Elle dit, pourquoi on fait de l'art abstrait? Elle dit, parce que tout le monde le fait. Alors je dis, c'est dommage pour votre art. Si vous faites comme tout le monde, vous n'êtes pas un artiste. Remarque, regardez. Mais non. Un artiste suit son inspiration. Il remonte à la source. S'il commence à faire comme tout le monde, il est fichu comme artiste. Un philosophe qui fait comme tout le monde n'est pas un philosophe. Un théologien qui fait comme tout le monde n'est pas un théologien. Très vite fait, ça, voyez. Parce que il ne cherche pas la vérité. Alors, on a essayé de comprendre, je reviendrai sur ces différents aspects de la théologie. Et je disais que faire la théologie des tentations à travers toute l'écriture, ça fait partie de la théologie mystique. Parce qu'on voit là combien l'Église est l'Église militante. L'Apocalypse. L'Apocalypse nous montre l'Église militante. L'Église dans ses luttes et dans ses grandes luttes. Et c'est pour ça que de fait, dans la plupart des traités de l'Église, l'Apocalypse est peu cité. L'Apocalypse est beaucoup plus cité dans la liturgie depuis Vatican II. C'est un fait. Beaucoup plus qu'avant. C'est pas étonnant. Parce que Vatican II nous a mis dans l'attitude de ceux qui attendent le retour du Christ. On le dit. Tout haut. On attend le retour du Christ. On réveille toutes les marmottes chrétiennes pour qu'elles attendent le retour du Christ et qu'elles soient dans cette attitude de ceux qui attendent le retour du Christ. Parce que le chrétien ne peut pas être une marmotte. C'est-à-dire trouver que c'est très bien ce qui se passe maintenant et ne pas attendre le retour du Christ. Ça fait partie de l'espérance eschatologique. Et l'espérance chrétienne est nécessairement eschatologique. Alors à ce moment-là, on est proche de l'Apocalypse. C'est vrai que le mystère de l'Église militante nous montre l'Église dans ses grandes luttes. Et donc dans ses grandes tentations. Alors, je réfléchis beaucoup, ce que je cherche avec vous, hein. Le théologien cherche tout le temps. Il ne s'arrête jamais des conclusions. Il s'arrête à la foi. C'est une sagesse. Donc il remonte tout le temps à la source. Il revient tout le temps à l'écriture. L'écriture est le point de départ, l'écriture est le terme. Et toute la théologie est faite pour éclairer, expliciter la parole de Dieu. Comprendre mieux la parole de Dieu. La comprendre en profondeur, dans sa signification plénière. Alors, y a-t-il un ordre dans la théologie des tentations? Déjà depuis longtemps, je me pose la question. Le propre de la tentation, le propre de la lutte, c'est de fait d'orienter vers quelque chose qui n'est pas la finalité. Je suis tenté lorsque quelqu'un, ou imaginativement, au-dedans de moi-même, je suis orienté vers une déviation. Quelque chose qui n'est pas inscrit dans la sagesse de Dieu. Je prends tenter au sens tenté par le démon. Parce que je vous rappellerai tout à l'heure ce texte de saint Thomas, où saint Thomas montre que tentare peut être de signification très diverse. Alors, ici, je pars au point de départ de la tentation au sens fort. Provoqué par le démon, le serpent, le diable, l'adversaire, le dragon. Quelqu'un qui, de l'extérieur, me séduit. Toute tentation implique une séduction. Et on essaiera de comprendre. Et il y a des tentations internes qui, elles aussi, impliquent une séduction. Donc, il y a un passage premier entre l'attraction du bien et la séduction du beau. Le bien ne séduit pas, c'est le beau qui séduit. Le beau peut très bien séduire en vue du bien. C'est saint Thomas qui fait cette petite remarque. La beauté d'une jeune fille est en vue du mariage. Parce qu'elle séduit par sa beauté. C'est saint Thomas qui dit ça. Elle séduit par sa beauté. En vue d'attirer. Et d'être source d'amour. En vue du mariage. Mais il y a des séductions qui ne sont pas du tout en vue de l'amour. Et la tentation du malin, du démon, est une séduction en vue d'un déraillement, d'une déviation, détournée du bien. Mais je prends tentation ici, je précise tentation telle que je l'emploie maintenant, pour que nous comprenions. Ça vient donc d'une force extérieure. Parlons ensuite des épreuves. Mais je regarde d'abord la tentation. De fait, Dieu, Jésus, nous a laissés dans un milieu où le démon agit. Où le démon a un très grand pouvoir. Aucune autorité. Et un très grand pouvoir. Donc, distinguons bien toujours, quand on est dans la théologie des tentations, l'autorité et le pouvoir. C'est élémentaire. C'est très important. Parce que des quantités de personnes, même qui exercent autorité, font la confusion entre autorité et pouvoir. pouvoir relève de la causalité efficiente du pouvoir, pouvoir de coercition, tandis que l'autorité relève toujours de la causalité finale. Petite distinction très importante en théologie, et même capitale. Hegel, évidemment, ne fait plus. L'autorité est au service de celui sur lequel on exerce autorité. Tandis que le pouvoir n'est pas un service par lui-même. On exerce un pouvoir sur quelqu'un. Peut très bien mettre son pouvoir au service d'une finalité, au service de l'autorité, donc au service d'un service, mais on peut aussi exercer le pouvoir pour s'enrichir. On peut exercer son pouvoir pour sa propre gloire. Des quantités de personnes qui sont au pouvoir exercent leur pouvoir pour la gloire du parti. À ce moment-là, la finalité est mise en dehors. C'est très important dans l'analyse philosophique et théologique de savoir discerner le pouvoir de l'autorité. Cela relève d'une analyse philosophique et théologique qui est capitale. Et c'est capital quand il s'agit de la tentation. Le démon nous tente parce qu'il a un pouvoir de séduction que Dieu lui a laissé. Qui, chez lui, est naturel depuis sa faute. Grâce à son intelligence supérieure à l'intelligence des hommes, même des génies. Le génie est petit, le génie humain est petit à côté de l'intelligence de Lucifer. Petite intelligence. C'est pour ça que les génies peuvent se laisser séduire par des tentations. Vous voyez, je rappelle ce que c'est que la tentation. La tentation présuppose, si je la regarde comme ça, elle présuppose que je crois en l'existence du démon. C'est bien évident. Que je crois en l'existence des conséquences du péché originel. Puisque la tentation peut être interne ou peut être externe. Tout ça est présupposé, hein, au point de vue théologique, puisque c'est la foi. C'est de foi que le démon existe. C'est de foi que le péché originel existe. C'est de foi que les conséquences du péché originel existent. Ça fait partie du patrimoine catholique. Et ne disons pas qu'il a changé. Non. Questions qui ont été très débattues, savoir s'il y a évolution dans le patrimoine de la tradition catholique, ou s'il y a simplement un développement. Tout développement n'est pas une évolution, au sens fort. Une croissance est un développement. On a beaucoup étudié ces questions, savoir si quand l'Église précise, proclame un dogme, est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est un développement, est-ce que c'est une croissance homogène dans la tradition. Et l'Église Il a toujours maintenu que c'est un développement et une croissance. Et l'Église s'est développée selon une croissance de ce vivant qui est mu par l'Esprit Saint. C'est très important de comprendre ça. Parce que c'était la réflexion que quelqu'un soulevait. Vous avez dit que l'exégèse change. Alors on dit, mais l'Église aussi change. Le dogme aussi change. Eh bien non, pas de la même façon du tout. Les méthodes exégétiques peuvent changer selon un développement qui n'est pas homogène. Parce que c'est une science et pas une sagesse. Tandis qu'au contraire, la sagesse ne change pas substantiellement. Elle se développe, elle croît. Je sais bien que ce sont des distinctions qui peuvent paraître très subtiles, mais qui sont très importantes si on veut comprendre ce que c'est que la tentation. Et comprendre le caractère propre de la tentation. C'est de nous mettre sur un chemin qui n'est plus la tradition de l'Église. Déviation. Déviation substantielle. Pas accidentelle, substantielle. Alors, la question se pose, y a-t-il un ordre dans les tentations? En théologie mystique, qui étudie les tentations. C'est la première question qu'on doit se poser. Et je dis non. Il n'y a pas d'ordre. La tentation est essentiellement anarchique. Alors que la sainteté est essentiellement ordonnée. La conduite de l'Esprit Saint, dans la mesure où je suis fidèle, implique un ordre. Organique. Un ordre qui n'est pas un ordre logique, qui est un ordre d'amour. Tandis que le démon est le prince de l'anarchie. Il est le prince du mensonge. Et le mensonge est anarchique. Si j'étudie les tentations, je ne peux pas trouver un ordre dans les tentations. Et comme les tentations sont anarchiques, qu'elles sont d'autre part toujours liées à une personne qui est tentée, c'est une communauté qui est tentée. Quand le Saint-Père disait la parole que je vous rappelais hier au soir à Paris aux évêques que l'Église vit actuellement une méta-tentation, donc une tentation la plus terrible que l'Église ait vécue. Le Saint-Père à ce moment-là met un ordre, si j'ose dire, dans les tentations. Non, il ne met pas d'ordre. Il ne dit pas que c'est une tentation maximée d'aller. C'est une méta-tentation. Ur tentation. La tentation fondamentale. Alors ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas d'ordre dans les tentations. Mais il y a un fondement. C'est pour cela que, étudiant la théologie des tentations, je commence par la première. J'avais beaucoup hésité de prendre les tentations du Christ. Eh bien, je dis non, je ne prends pas les tentations du Christ. Nous verrons les tentations du Christ. Elles sont capitales dans une théologie de la tentation. Pour comprendre comment répondre. Le Christ m'apprend comment répondre. Mais la théologie des tentations est fondamental. De sorte que je dois regarder le point de départ et le terme. Et entre deux, le désordre. Il n'y a pas d'ordre dans la théologie des tentations. Ça, je crois qu'on peut le comprendre assez facilement. Le démon a une stratégie anarchique. Et non pas une stratégie de sagesse. Parce qu'il a perdu la sagesse. C'est comme Machiavel. Chercher un ordre de sagesse dans Machiavel. Le livre sur le prince. Vous ne trouverez pas. C'est anarchique. C'est pour ça que c'est toujours très déroutant, une politique anarchique. Et ils séduisent par leur anarchie. Parce que c'est toujours un changement. Le changement perpétuel. Alors que quand on a une politique de sagesse, il y a un ordre. Toute politique de sagesse implique un ordre. Tout gouvernement de sagesse implique un ordre. Un gouvernement qui n'implique plus d'ordre et qui est anarchique pour dérouter. C'est justement anarchique. Il déroute. Il séduit. Parce que, de fait, c'est dans le gouvernement de Dieu qu'on situerait en théologie scientifique la tentation. Dans le gouvernement de Dieu, sur l'Église. Tu as laissé une place au démon. Drôle d'idée. Laisser une place au démon. Il aurait pu très bien dire: tu t'es révolté contre moi, eh bien tu vas voir. Tu vas être précipité tout de suite dans les ténèbres. Et on ne parlera plus de toi. Dieu n'a pas agi comme ça. Tu as laissé au démon un pouvoir, non pas d'autorité. Quand le démon commence à vous tenter en disant qu'il est plus intelligent que vous et qu'il a autorité sur vous, faites attention. C'est vrai qu'il est plus intelligent que nous. C'est vrai qu'il connaît des quantités de choses que nous ne connaissons pas. Et par là, il nous séduit. C'était cette petite étudiante de Paris, étudiante en philo, que j'ai rencontrée dans la Sarthe. Il y a déjà longtemps, peu de temps après la guerre. Qui, en face, après la messe, on se réunissait autour du curé, qui m'a posé cette question. Père, est-ce que j'ai le droit d'interroger le démon? Parce que, quand même, c'est intéressant. Il est intelligent. Oh, je fais de la philo. Je voudrais connaître un tout petit peu la manière dont le démon regarde Kant et gueule. Ça m'intéresserait follement. J'ai dit, et moi aussi. Ça m'intéresserait énormément. Mais vous n'avez pas le droit d'interroger le démon. Je n'ai pas dit plus, mais je l'ai pris après à part. Il dit, votre question m'a intéressé, mais je ne veux pas la traiter devant tout le monde. Parce que si vous posez cette question, ça prouve que vous savez comment pouvoir interroger le démon. Alors elle m'a regardé. Elle dit, oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. On me l'a proposé. Et c'est pour ça que j'ai répondu non, parce que j'ai compris. Mais dites-moi quand même, comment on vous l'a proposé? Ça m'intéresse. Alors elle me l'a dit. Chose classique. Certains qui avaient fait des alliances avec le démon et qui lui proposaient d'interroger le démon et que le démon répondrait. On sait que ça existe. Dieu laisse ses fuites. Les gouttes d'eau tombent, c'est un vieux plafond. Vous êtes au bon moment où ça tombe. Je comprends très bien qu'une jeune fille de 22 ans qui fait de la philo s'intéresse au démon. Elle est intelligente. avoir des maîtres plus intelligents que les maîtres qu'elle a. Avoir le démon. Professeur à la Sorbonne. Ah, il avait du succès, je vous affirme. Aux États-Unis, on a posé la question, est-ce qu'on a le droit d'avoir une liturgie démoniaque ? Je ne sais pas quel est l'état. Il en a répondu, il n'y a aucune raison que le démon, qui est une personne qui existe, n'ait pas sa liturgie. Donc on attend, il n'y a aucune raison que le démon qui est intelligent n'ait pas sa chair. Aucune raison. Dans un monde d'un libéralisme absolu. C'est ça, dans le gouvernement de Dieu, la place du démon. Dieu lui a laissé son intelligence angélique. Et l'intelligence angélique, c'est l'intelligence des aînés. Je dis ça parce qu'on ne comprend rien au mystère de la tentation si on ne voit pas ça. C'est élémentaire. Point de vue théologique. Il faut comprendre que la lutte première a existé dans le ciel. C'est dit dans l'Apocalypse. Michaël a lutté contre les anges révoltés, contre Lucifer. Il y a eu un combat dans le ciel. Le premier péché, c'est pas celui d'Adam. Le premier péché, c'est celui de Lucifer. Vous savez ce passage dans l'Apocalypse, il faut quand même le lire et le relire, comme toujours l'Apocalypse. Comme ça, petit à petit, vous lirez toute l'Apocalypse. Ce que je souhaite beaucoup. Et vous deviendrez bien plus intelligent pour le Saint-Esprit.
Il fut jeté sur la terre
et ses anges furent jetés avec lui. Voyez, Michael nous a fait un très beau cadeau. Il a jeté le dragon, l'antique serpent, le diable, sur la terre. Pas de place pour eux dans le ciel. Langage symbolique. Prenons bien, langage symbolique. Le ciel, c'est le lieu de la contemplation. Le démon, perdant la foi, n'acceptant pas la foi, la rejetant. Parce que tous les anges ont été créés dans la grâce. Avec la foi, l'espérance et la charité. Et Dieu les a éprouvés. Et l'épreuve des anges, selon saint Augustin, qui a regardé de très près l'Écriture, à la manière d'un saint. Selon saint Augustin, l'épreuve des anges, c'est que Dieu a révélé aux anges qu'il voulait poursuivre son œuvre de créateur en réalisant les petits derniers et faire de ces petits derniers son chef-d'œuvre, l'homme et la femme. Et le démon, Lucifer, plutôt, et l'ange, dans son orgueil, n'a pas voulu accepter que le petit dernier passe avant l'aîné. Puisse avoir une intimité avec Dieu plus grande que l'aîné. Il n'a pas voulu accepter que l'amour puisse passer avant l'intelligence. Et que celui qui aime peut pénétrer plus avant dans la parole de Dieu qu'un savant. Il n'a pas accepté ça. Pour lui, l'ordre de sainteté est un ordre de l'intelligence. Ça, le péché de l'ange. Il n'a pas accepté que l'ordre de sainteté est un ordre d'amour, où les plus petits peuvent passer avant. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir révélé ces choses, non pas aux sages et aux prudents, mais aux tout petits. C'est Jésus qui proclame ça. Et c'est là où celui qui est devenu Lucifer s'est heurté. Il n'est pas passé par la porte étroite. L'épreuve de la foi. Il y a eu une épreuve. Ça n'a pas été une tentation, c'était une épreuve. Mais dans un sens très très large, on peut dire que Dieu, comprenez bien, ne me faites pas dire des choses que je ne dis pas. On peut dire que Dieu a tenté. Tantare, en prenant le mot, point de vue de l'étymologie, il a sondé les reins et les cœurs. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que l'amour que tu as pour moi est plus grand que l'exaltation de ton intelligence? Ou préfères-tu l'exaltation de ton intelligence à ce lien d'amour que tu as avec moi? Le péché de l'ange est un péché d'orgueil. Il s'est exalté. Il a préféré sa propre exaltation, son exaltation personnelle. Quand Dieu a communiqué aux anges, avant la création d'ange, avant la création de l'homme, son intention. Et vous voyez, il y a eu un combat dans le ciel. Michael, avec ses anges, ont adoré le message de Dieu trinitaire. Alors que Lucifer et tous ses anges ont refusé ça. Et se sont enfoncés dans leur orgueil personnel. Il y a eu un choix personnel, mais un choix angélique. un choix sur lequel on ne revient pas. Parce que c'est trop personnel. Ça définit l'ange dans ce choix. Et c'est pour cela que les mauvais anges, Lucifer, n'acceptent pas la miséricorde de Dieu. Puisqu'ils n'acceptent pas que l'amour puisse passer devant l'intelligence. Le démon est sincère dans son orgueil. Il est persuadé d'avoir la vérité. Il n'en démord pas. Et vous n'arriverez pas à en faire démordre. Hein. Qu'est-ce que vous êtes ? Poussière, peu de choses, pas grand-chose. Le démon n'a pas accepté d'avoir comme frères et sœurs des petits peaux rouges. Adam, terre rouge, n'a pas accepté ça. D'avoir des êtres beaucoup moins intelligents que lui, quoi. Qu'ils soient ses frères, qu'ils soient ses sœurs. Quelle dégénération. Pour lui, le premier devait être le plus intellectuel, le plus intelligent qui devait être premier. Non, il a accepté. Servir un être plus intelligent que lui. Ah, très bien. Servir quelqu'un qui soit moins intelligent que lui et qui ait plus d'amour, ah non. Et c'est ça l'orgueil. Hein. Premier péché d'orgueil. Comme Lucifer est sûr dans sa sincérité angélique d'être dans la vérité, Dieu respecte cette sincérité démoniaque parce que le démon est intelligent et Dieu lui a donné cette intelligence. Sage de la part de Dieu d'anéantir son œuvre de sagesse. Et donc, Dieu n'a pas anéanti le démon. Il a respecté cette intelligence angélique. Et cette intelligence angélique est supérieure à la nôtre. Certains rôles sur notre univers, très difficile à préciser, mais certains rôles sur notre univers. Le démon a un pouvoir sur notre univers. Il a un pouvoir de séduction sur nous, pour nous faire dévier. D'où cette première faute. Cette première tentation. Alors, revenons à ce texte bien connu et que je relis avec vous parce que c'est la première tentation et que c'est quelque chose d'important. Je regarde cela dans une perspective de théologie mystique. Je vous le dis tout de suite. Que l'Église accepte, que certains théologiens ne peuvent très bien ne pas accepter. Et pour moi, personnellement, la théologie mystique doit exister. Elle a existé, elle existe. Et que la parole de Dieu demande cela. Saint Thomas dit que toute parole divine inspire l'amour. Verbum spirant amorem. Et que donc toute parole divine s'achève dans le cœur du croyant pour produire tous ses fruits qui sont des fruits d'amour. quand Satama dit ça, il reconnaît qu'il y a une théologie mystique qui présuppose la théologie scientifique, qui lui donne une structure, mais que Satama reconnaît qu'il y a une théologie mystique. Alors, voyons bien ce récit, chapitre 3. Et le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes des champs que Yahvé Dieu avait faites. Nous sommes en face d'un récit qui, selon sa forme, est mythique, mais d'un mythe révélé qui exprime une réalité existante. Il y a eu un décret de la commission biblique au début du siècle pour bien nous rappeler que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont selon un style symbolique. Aujourd'hui, on dit mythique. La différence entre le symbole et le mythe, vous savez, tout mythe est symbolique. Tout symbole n'est pas mythique. Première distinction. C'est toujours par là qu'il faut y aller. C'est la différence du côté de l'extension. Le mythe implique dans le symbole un récit. Alors que le symbole comme tel n'implique pas nécessairement un récit. Ça, c'est la philosophie qui dit ça. Et elle a raison. Ricoeur a beaucoup étudié rite, symbole et récit. Je précise un peu ce que dit Ricoeur, mais c'est à peu près ça. Et je crois que c'est juste de dire ça. Je reprends. Parce que ça, c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir. Il ne faut pas refuser ça catégoriquement. Oh, ça ne vaut rien du tout. Pas du tout. C'est très intéressant. La parole humaine, avant d'être un langage logique, scientifique et poétique et symbolique. Un enfant vit du symbole. Il ne faut pas supprimer ça trop vite. Et les poètes vivent de symboles. Et les poètes sont des gens qu'on doit respecter et aimer. Sont un contrepoids par rapport au positivisme, qui n'est pas bon. La science est bonne, mais le positivisme est nuisible. Vous voyez la différence entre les deux. La science est toujours particulière. Le positivisme universalise la science pour dire que seule la science atteint la vérité. Donc le positivisme, c'est la négation de la philosophie. D'une philosophie qui n'est pas une science, qui est une sagesse. Le positivisme universalise les conclusions scientifiques. Alors le positivisme, évidemment, nie tout symbolisme, toute valeur du symbole. Alors que le vrai savant reconnaît qu'il y a une connaissance symbolique et que la connaissance symbolique a sa place dans l'écriture, parce que l'écriture, c'est l'enseignement de Dieu à des tout petits, à des enfants, à ceux qui acceptent d'être enseignés par Dieu et à ceux qui reçoivent cet enseignement de Dieu. Donc dans l'écriture, il y a une place au symbole. Tout n'est pas symbolique. Vous savez bien, Jésus dit qu'il parle en parabole, donc d'une manière symbolique. Et les apôtres demandent de parler autrement. Il dit à vous qu'il est permis ou qu'il est donné la grâce de connaître le royaume de Dieu. Je parle autrement. dans l'écriture, qu'il faut respecter. Ici, il s'agit d'un symbole divin, pas d'un symbole poétique, mais d'un symbole divin qui contient un récit. C'est pour ça que je dis que c'est un mythe, mais un mythe divin. Donc, qui exprime une réalité existante. Je n'ai pas le droit de dire les 11 premiers chapitres de la Genèse n'expriment rien de réel. Je dis, ça exprime une réalité sous une forme symbolique et mythique. Et ici, le mythe est visible. Le serpent. Si je regarde l'Apocalypse, l'antique serpent, c'est donc celui qui s'est révolté contre Dieu. Voilà la réalité. Et cette réalité mystérieuse est présentée sous la forme symbolique et mythique d'un serpent qui parle. C'était le cardinal Journet, vous savez, qui au moment où on ne parlait que de dialogue, disait « Oui, oui, dialogue, dialogue. N'oubliez pas le premier dialogue. C'est Ève et le serpent. Il y a des dialogues qui sont bons et des dialogues qui ne sont pas tout à fait bons et qui conduisent très loin. » C'est évident. Entendre un serpent qui parle. Il faut vraiment être un tout petit enfant. Pauvre Ève. Elle avait Adam à côté de lui. Et ça ne lui suffisait pas. Ça en dit long. Vous voyez comme la tentation est intéressante pour nous faire comprendre la psychologie de la femme. Je trouvais que tout homme hésite très longuement ça. J'hésite toujours le jour du serment de mariage de reprendre ça. Je ne le fais pas, mais j'ai envie de le faire, et cette envie demeure. Si l'homme avait satisfait complètement l'intelligence de la femme, un serpent qui parle, rien du tout, rien du tout, espèce imbécile. J'ai mon homme, bien plus intelligent que toi. Pas du tout. Et comme c'est extraordinaire ça, moi je trouve ça merveilleux. Lui qui m'enseigne comme on enseigne un enfant. Il y a toujours en nous un petit enfant. C'est Goethe qui dit ça, un poète. Goethe dit, si dans le cœur de l'homme, il ne reste pas le cœur d'un tout petit enfant, c'est terrible. C'est Goethe qui dit ça. Il doit toujours y avoir dans le cœur de l'homme quelque chose qui lui permette de grandir. Quand il n'y a plus le cœur d'un enfant, il est satisfait de lui-même. Espèce de pharisien. Il est satisfait de lui-même. Cœur d'un enfant, il peut encore écouter sa femme. Si elle est mère, elle vit avec des enfants. Et la mère raconte au père le dernier geste de l'enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Le dernier bon mot. C'est comme ça que l'épouse éduque son mari grâce à l'enfant. Et si le père dit « Ah, laisse-moi, j'ai un théorème de mathématiques à découvrir pour ce soir, absolument. » Bon, elle n'insiste pas, c'est le matheux. C'est le scientifique. Oh, surtout, surtout, n'essayez jamais de compléter un savant. le soir, quand il sera fatigué, quand il aura découvert qu'il aura fait son cours, qu'il sera très fatigué, à ce moment-là, l'amour reprend sa place. Et le cœur du Père, j'aime beaucoup le cœur du Père, on y reviendra, et le cœur du Père reprend toute sa place. Et la mère peut parler de l'enfant. L'épouse peut parler de l'enfant. Je reviens. Le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes des champs que Yahvé avait faites. Ah, extraordinaire. Tu as voulu faire une bête qui soit d'une ruse la plus grande qui soit. Que ça sert de symbole à Lucifer. Donc, on voit que la tentation commence par la ruse. Toute tentation commence par la ruse. C'est la ur-tentation. C'est la tentation fondamentale. C'est la ruse. Et on a affaire à quelqu'un de plus rusé que nous, parce que plus intelligent. Les Grecs, c'est pour ça qu'on ne les aime plus aujourd'hui, parce que les Grecs sont intelligents, et qu'on a peur qu'ils soient plus intelligents que nous. C'est pour ça qu'on rejette toute la philosophie grecque, parce qu'elle est très intelligente, beaucoup plus intelligente que le positivisme d'Auguste Comte, qui est une philosophie de gens fatigués, qui ne remontent plus à la source. C'est-à-dire que les Grecs remontent toujours à la source. Les Grecs considéraient que la qualité de l'intelligence était la ruse. C'est vrai, ça. Les gens très intelligents sont rusés. On est rusé pour le bien, on est rusé pour le mal. Mais on est rusé pour le bien, quand même. Quand on a affaire à quelqu'un qui est rempli de son pharisaïsme. Goliath. Vous trouvez, comme le petit David, l'endroit où il est fragile. Tout homme a sa fragilité. Et la ruse féminine, dans le bon sens, c'est de découvrir cette fragilité de l'homme. Pour son bien, pour qu'il ne soit pas pharisien. Prix Nobel. Plus besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Je vous en raconterai des histoires là-dessus. On n'a pas le temps. Mais ce serait très intéressant parce que Ça fait comprendre ces choses-là. Quand on est attentif à la vie dans laquelle on est aujourd'hui, on comprend combien c'est fort cette manière dont Dieu parle à travers un symbole, à travers un mythe. Parce que le mythe et le symbole échappent à la science. Et Dieu a voulu parler comme ça pour échapper à la science. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond que la science. Et c'est beaucoup plus profond, la science. C'est le cœur de l'homme. C'est l'intelligence de l'homme ordonnée à Dieu. C'est l'intelligence affective de l'homme. L'intelligence poétique de l'homme qui se fabrique des symboles, des mythes. Il dit à la femme, la première phrase de ce dialogue, hein, le démon sait que la femme a aussi ses fragilités, qu'il y a aussi une vulnérabilité dans la femme. Quelle est la vulnérabilité d'Ève ? C'est intéressant. De la femme parfaite, vous savez, Ève est une femme parfaite, extrêmement intelligente. Elle avait un un homme merveilleux, Adam. Et quand Adam l'a vu, il a dit tout de suite, chair de ma chair, os de mes os. Le Magnificat d'Adam. Étonnant. Il a été séduit par elle. Elle a été séduit. Elle a trouvé admirable. C'est Dieu qui l'a choisi pour Adam. On oublie trop ça. Si je lis l'Écriture et que je suis attentif à l'Écriture, je montre que c'est Dieu lui-même qui a choisi pour Adam la plus belle des femmes. Parce que Dieu est sensible à la beauté. La beauté vient de Dieu. Il retourne à Dieu. Mais c'est l'endroit où les batailles se font. Le démon veut lui aussi régner sur la beauté. Il veut posséder la beauté. Il veut que ce soit son domaine. C'est pour ça que c'est le lieu des rivalités. Toujours là est le lieu des rivalités. C'est le lieu des combats. Il dit à la femme. Et le démon qui veut prendre. Le serpent qui veut prendre la place d'Adam. Adam n'a pas conquis totalement le cœur et l'intelligence. Je crois qu'il a conquis le cœur, mais pas l'intelligence. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils conquièrent le cœur de leur épouse. Et oh, c'est pas la peine de conquérir son intelligence. C'est l'intelligence d'une femme. Pas la peine. Je resterai tout de suite au-dessus. Pas la peine. Alors, je ne dis pas qu'il y a un mépris, mais, ça frôle. Ils oublient que la femme a la même intelligence que lui, mais qui s'exprime autrement. Et qu'il faut que l'homme soit très intelligent pour comprendre que la femme s'exprime autrement. Une intelligence purement mathématique a beaucoup de peine de comprendre l'expression symbolique de la femme, amoureuse de la femme, en tant que matheux. Beaucoup de peine. Beaucoup. On ne dit pas qu'Adam est un fait polytechnique. Adam était premier normalien, maths, on ne dit pas tout ça, mais au fond, tout ça est contenu en lui, hein, c'est évident. Remarquablement intelligent, mais il n'a pas conquis totalement l'intelligence à sa femme. Alors, Dieu dit, alors, donc, il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Conclusion théologique du serpent. C'est la première conclusion d'une théologie réduite à une intelligence créée. Avant Hegel, il y a le serpent. Et sa conclusion théologique, il a beaucoup, beaucoup réfléchi avant de s'approcher de la femme. Première conclusion théologique, il a constaté, et vous comprenez qu'il est furieux, Dieu n'a pas écouté son conseil. Et Dieu a continué sa création en réalisant l'univers. En réalisant un petit paradis. Il a mis dedans Adam et Ève. Pour le démon, pour Lucifer, Dieu se trompe. C'est un grand-père. Il s'est trompé. Il est père des anges et grand-père des hommes. Il s'est trompé. Il était trop bon. Non. On va lui montrer l'intelligence théologique que Dieu s'est trompé. Et on va me servir de la créature même de Dieu pour proclamer que Dieu s'est trompé. Il a été trop beau. Faire passer avant l'amour, faire passer avant l'intelligence l'amour, c'est grossier. Ce n'est pas noble. Ce n'est pas digne de Dieu. C'est un grand-père. Il y a tout ça dans cette parole. Elle est très forte, très intelligente. Comme tout Hegel. C'est très intelligent. C'est pour ça que des intelligences moyennes qui se mettent à étudier Hegel, c'est très dangereux. Avec laquelle il a dit ça. La certitude. Enfin, la femme se trouve en face d'un théologien. Adam, il croyait. Le serpent, il ne croit plus. Il a la supériorité de quelqu'un qui ne croit plus. C'est bien pour avant, ça. C'était bien quand j'étais jeune, la foi. Je l'ai eu. Le serpent a eu la foi. Et il l'a laissé tomber. Pour que son intelligence s'exerce librement. Pour que son intelligence puisse s'étendre le plus qu'elle peut. C'est cette intelligence du serpent qui a beaucoup réfléchi sur l'état de ces deux personnes. Les Benjamins, comment Dieu les a fait? Quand même curieux. Et Dieu a fait tout ça pour eux. Et ils se disent entre eux, les démons ne comprennent pas les secrets de la foi. Plus exactement, le démon s'aperçoit par les gestes qu'ils évitent un art. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Vous voyez, c'est excellent de voir ce que c'est que le positivisme. Le démon est un positiviste. C'est une théologie positiviste. Il généralise un fait. Un vrai savant ne fait jamais ça. C'est le positivisme. Il généralise un fait. Il y a un fait. C'est pas complètement idiot. Ils ne doivent pas manger d'un fruit. Ils généralisent. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Et c'est très fort parce que il séduit par la négation. Tout ça est archi-moderne. Et le Saint-Père l'a bien dit. Il a dit qu'il fallait regarder la première tentation pour comprendre la tentation que vous vivez maintenant. Moderne. Il tente par la négation. Parce que c'est plus facile d'universaliser par la tentation. Et c'est aussi beaucoup plus humiliant d'obéir à une négation qu'à un précepte positif. Obéir à un précepte positif, ça va. Mais obéir à un précepte négatif, ça va pas du tout. Tu ne feras pas ça. Tu ne prendras pas de confiture. Tandis qu'obéir à un précepte positif, tu prendras modérément de la confiture. Ça va très bien. Le précepte négatif est toujours absolu. Et donc, il donne l'impression d'une limite. Et c'est ce que Freud dit. Tout acte d'obéissance par rapport à un précepte négatif vous aliène. Est une aliénation. Et vous obéissez, vous êtes aliéné. Vous vous limitez vous-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas obéir. L'obéissance, c'est une aliénation. C'est contenu ici. Il a bien attaqué, vous savez. Il a attaqué par une négation d'intelligence. C'est très intelligent comme séduction. Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est merveilleux la prison dans laquelle vous êtes, mais c'est une prison. Je me souviens, mes premiers amis, quand je suis entré dans l'ordre de Saint-Dominique, c'était tous des matheux. Tant d'une voix, on m'a dit, mais quelle belle prison. Et tu restes là. Quelle belle prison. C'est extraordinaire. J'assistais en haut du chœur, à la tribune, à l'office. Et j'ai vu, vous faisiez tous l'inclination en même temps. Oh, quel esclave. Trop beau d'esclave. En même temps, oh, c'était très beau. Et vous vous releviez en même temps. Et vous croyez que vous êtes libre? Trop beau d'esclave. Première parole que j'ai entendue dans du monde. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est une prison d'or, peut-être que c'est très beau, peut-être que vous mangez bien, c'est possible. Peut-être que vous dormez bien, peut-être qu'il y a du calme, possible, mais vous ne voyez pas. Vous êtes tous réduits à ça. Je peux regarder ça d'une autre manière. Un philosophe, Plotin, a dit, dépendre d'un être qui est inférieur à nous, c'est une aliénation. Dépendre d'un être qui est supérieur à nous, c'est une exaltation. Sans avoir lu Plotin, j'ai répondu à ses chers amis, espèce d'imbécile. Tu regardes ça comme un sociologue, un positiviste. Je pouvais lui dire ça. Tu regardes ça de l'extérieur. Tu vois pas le sens de ça. On s'incline tous en même temps en face de Dieu pour montrer qu'on n'a qu'un seul cœur et qu'une seule. Et tu as compris les choses de l'extérieur. Pour des gens qui se prétendent intelligents, c'est triste. Et c'est vrai, c'est triste. Pour des gens qui se prétendent intelligents, ils regardent les choses de l'extérieur. Selon leur gabarit. Les 24 vieillards jettent en même temps leur couronne et s'inclinent en face de Dieu. Pour adorer. Liturgie céleste. Qui est la grandeur de l'homme capable librement d'adorer et d'adorer en communauté sans aucun respect humain. C'est magnifique ça. Parce que quand on a une liberté limitée au respect humain, ça ne va pas très loin. Alors on voit bien, Ève, la femme du serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. A le bon sens d'Ève, elle relève, c'est faux. Ta généralisation est fausse. Tu ne dis pas du tout une loi, c'est faux ta loi. Ta loi n'existe pas, on peut manger, mais